Cette belle vertu faisait bien dans le salon Nucingen. Chaque hiver écornait le capital de d'Aldringer. Mais il n'osait faire le moindre reproche à la perle des Adolphus. Sa tendresse fut la plus ingénieuse et la plus intelligente qu'il y eut en ce monde. Brave homme, mais bête. Il mourut en se demandant « Que deviendront-elles sans moi ?» Puis, dans un moment où il fut seul avec son vieux valet de chambre, Wirth, le bonhomme, entre deux étouffements, lui recommanda sa femme et ses deux filles, comme si le Caleb d'Alsace était le seul être raisonnable qu'il y eût dans la maison. 3 ans après, en 1826, Isor était âgé de 20 ans et Malvina n'était pas mariée. En allant dans le monde, Malvina avait fini par remarquer combien les relations y sont superficielles, combien tout y est examiné, défini. Semblable à la plupart des filles dites « bien élevées », Malvina ignorait le mécanisme de la vie, l'importance de la fortune, la difficulté d'acquérir la moindre monnaie, le prix des choses. Aussi, pendant ces 6 années, chaque enseignement avait-il été une blessure pour elle. Les 400 000 francs laissés par feu d'Aldringer à la maison Nucingen furent portés au crédit de la baronne, car la succession de son mari lui redevait 1 200 000 francs. Et dans les moments de gêne, la bergère des Alpes y puisait comme dans une caisse inépuisable. Au moment où notre pigeon s'avançait vers sa colombe, Nucingen, connaissant le caractère de son ancienne patronne, avait dû s'ouvrir à Malvina sur la situation financière où la veuve se trouvait. Il n'y avait plus que 300 000 francs chez lui. Les 24 000 livres de rente se trouvaient donc réduites à 18 000. Wirth avait maintenant la position pendant 3 ans. Après la confidence du banquier, les chevaux furent réformés, la voiture fut vendue et le cocher congédié par Malvina à l'insu de sa mère. Le mobilier de l'hôtel, qui comptait 10 années d'existence, ne put être renouvelé, mais tout s'était fané en même temps. Pour ceux qui aiment l'harmonie, il n'y avait que demi-mal. La baronne, cette fleur si bien conservée, avait pris l'aspect d'une rose froide et grippée qui reste unique dans un buisson au milieu de novembre. Moi qui vous parle, j'ai vu cette opulence se dégradant par teinte, par demi-ton. Effroyable ! Parole d'honneur, ça a été mon dernier chagrin. Après, je me suis dit, c'est bête de prendre tant d'intérêt aux autres. Pendant que j'étais employé, j'avais la sottise de m'intéresser à toutes les maisons où je dînais. Je les défendais en cas de médisance, je ne les calomniais pas, j'étais un enfant. Quand sa fille lui eut expliqué sa position, la ci-devant perle s'écria « Mes pauvres enfants, qui donc me fera mes robes? Je ne pourrai donc plus avoir de bonnets frais, ni recevoir, ni aller dans le monde ?» « À quoi pensez-vous que se reconnaisse l'amour chez un homme ?» dit Bixiou en s'interrompant. « Il s'agit de savoir si Beaudenord était vraiment amoureux de cette petite blonde. »« Il néglige ses affaires, » répondit Couture. « Il met 3 chemises par jour, » dit Finot. « Une question préalable, » dit Blondet. « Un homme supérieur peut-il et doit-il être amoureux ?» « Mes amis, » reprit Bixiou d'un air sentimental, « gardons-nous comme d'une bête venimeuse de l'homme qui, se sentant pris d'amour pour une femme, fait claquer ses doigts ou jette son cigare en disant « Bah, il y en a d'autres dans le monde. » Mais le gouvernement peut employer ce citoyen dans le ministère des Affaires étrangères. Blondet, je te fais observer que ce Godefroy avait quitté la diplomatie. Eh bien, il a été absorbé, l'amour est la seule chance qu'aient les sots pour se grandir, répondit Blondet. Blondet, Blondet, pourquoi donc sommes-nous si pauvres ? S'écria Bixiou. Et pourquoi Finot est-il riche ? Reprit Blondet. Je te le dirai, va, mon fils, nous nous entendons. Allons, voilà Finot qui me verse à boire comme si j'avais monté son bois. Mais à la fin d'un dîner, on doit siroter le vin. Eh bien. Tu l'as dit, l'absorbé Godefroy fit ample connaissance avec la grande Malvina, la légère baronne et la petite danseuse. Il tomba dans le servantisme le plus minutieux et le plus astringent. Ces restes d'une opulence cadavéreuse ne l'effrayèrent pas. Ah ! Bah ! Il s'habitua par degrés à toutes ces guenilles. Jamais le lampasse vert à ornements blancs du salon ne devait paraître à ce garçon ni passé, ni vieux, ni taché, ni bon à remplacer. Les rideaux, la table à thé, les chinoiseries étalées sur la cheminée, le lustre rococo, le tapis façon cachemire qui montrait la corde, le piano, le petit service fleureté, les serviettes frangées et aussi trouées à l'espagnol, le salon de Perse qui précédait la chambre à coucher bleue de la baronne avec ses accessoires, tout lui fut saint et sacré. Les femmes stupides et chez qui la beauté brille de manière à laisser dans l'ombre l'esprit, le cœur, l'âme, peuvent seules t'inspirer de pareils oublis. Car une femme d'esprit n'abuse jamais de ses avantages. Il faut être petite et sotte pour s'emparer d'un homme. Beaudenor, il me l'a dit, aimait le vieux et solennel Wirth. Ce vieux drôle avait pour son futur maître le respect d'un croyant catholique pour l'Eucharistie. Cet honnête Wirth était un Gaspard allemand, un de ces buveurs de bière qui enveloppent leur finesse de bonhomie comme un cardinal Moyen-Âge, son poignard dans sa manche. Wirth, voyant un mari pour Isor, entourait Godefroy des ambages et circonlocutions arabesques de sa bonhomie alsacienne. La glu la plus adhérente de toutes les matières collantes. Madame d'Aldringer était profondément improper. Elle trouvait l'amour la chose la plus naturelle. Quand Isor et Malvina sortaient ensemble et allaient aux Tuileries ou aux Champs-Élysées, où elles devaient rencontrer des jeunes gens de leur société, la mère leur disait « Amusez-vous bien, mes chères filles !» Leurs amis, les seuls qui pussent calomnier les deux sœurs, les défendaient, car l'excessive liberté que chacun avait dans le salon des d'Aldringer en faisait un endroit unique à Paris.